sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Midi et des Poussières. Nous sommes en direct depuis le studio Floracois de Radio Barthas et via les ondes de la FM fréquence 107. Nous sommes le mercredi 28 janvier et à l'instant, oh miracle, le soleil, mesdames et messieurs, le soleil, cet astre de près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, essentiellement composé d'hydrogène et d'hélium, l'une des 400 milliards d'étoiles qu'abrite notre galaxie, la Voie lactée, soleil autour duquel nous ainsi que les 7 autres planètes du système qui porte son nom, Graviton, le soleil est apparu dans les cieux du sud de la Lozère.
Midi et des poussières.
Vous avez probablement entendu parler du projet de Centre d'art citoyen de Saint-Enimie qui s'est lancé cet été et qui vise à transformer l'ancien monastère de Saint-Enimie donc en un espace de création, de transmission et de rencontre autour de l'art contemporain. Alors le projet avance et tiendra sa toute première assemblée générale ce samedi 31 janvier à la salle des fêtes de Saint-Enimie. C'était l'occasion de prendre des nouvelles du projet et d'échanger avec Alice Durel, l'une des trois porteuses du projet, qui était venue déjà présenter tout ça au micro de Ben sur Radio Barthas en septembre dernier. Elle est revenue pour nous tenir un peu informés des avancements du projet et elle nous rappelle comment cette idée de centre d'art citoyen a émergé.
L'aventure a démarré en fin 2024 à la lecture d'un appel à manifestation d'intérêt, un AMI diffusé par la mairie Gorges du Tarn-Causse, en l'occurrence celle de Saint-Enimie, pour la réhabilitation de cet édifice patrimonial qui est sur les hauteurs de la cité médiévale. On l'a lu conjointement avec mon binôme, donc Margot Bonopéra, qui est commissaire d'exposition. Moi, je suis Alice Durel et je suis productrice indépendante plutôt dans le secteur de l'art contemporain. Et Samy Rio, qui est designer industriel. Et on a tout de suite eu un déclic sur ce lieu. Et on a eu envie d'y proposer un centre d'art, en tout cas un endroit pionnier sur les arts visuels, après le constat du fait qu'effectivement, il n'y avait pas forcément de lieu de l'art contemporain en Lozère. Samy Rio, lui, est Cévenol. Margot et moi, on est beaucoup venus en Lozère. Moi, j'y réside maintenant en partie. Et on a maintenant visité beaucoup de lieux qui accueille des artistes en résidence, etc., mais pas forcément de lieux d'exposition majeurs ou en tout cas de lieux d'exposition publics et aussi portés par les pouvoirs publics. Donc, on a proposé ça à la mairie de Saint-Enimie qui a retenu le projet et donc on est là dans une phase de développement. On a créé une association pour porter toutes les actions qu'on peut faire dès aujourd'hui. Et il y a aussi une phase de travaux qui va être lancée donc pour que cet édifice patrimonial, donc un ancien monastère, une ancienne abbaye, puisse être ouverte au public le plus vite possible.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu, dans cet ancien monastère ?
Je ne sais pas si tu l'as visité, Raphaël, mais c'est vraiment un lieu majeur. Donc il y a plusieurs plateaux. C'est un endroit qui est assez alambiqué parce que justement, il est en hauteur et donc il est construit comme ça sur cette pente qui fait un peu le charme de Saint-Enimie puisque ça coule comme ça vers le Tarn. On le voit de partout, hein, de toutes les routes alentours quand on circule. Il y a donc une espèce de grande nef romane qui date du XIIe siècle, il me semble, et qui doit faire, je ne sais pas, au moins aller 15-20 mètres de long, je dirais au moins 10 mètres de haut. Et puis il y a plusieurs plateaux autour, il y a deux salles voûtées, dont une qui est cryptique, il y a une chapelle à l'entrée, la chapelle Sainte-Madeleine, enfin voilà, on a quand même une charge assez mystique autour de ce lieu et que les gens de Saint-Enimie, mais aussi tous les touristes qui viennent, les gens qui croisent ce secteur ont envie de revisiter et de voir et de découvrir son histoire.
Parce que pour l'instant, il était fermé au public depuis longtemps. Moi, je ne connais pas du tout, j'y suis jamais allée.
que ça fait une dizaine d'années qu'il est fermé au public.
Et donc, il y a beaucoup de travaux à faire, c'est ça, pour rendre ce lieu accessible au public, le mettre aux normes de l'accueil du public.
Exactement. En fait, il y a eu une première campagne de restauration sur le bâti courant 2024 aussi, au moins pour mettre l'édifice hors d'eau. C'est l'agence Trabant qui s'en occupe, qui est un architecte du patrimoine, donc assermenté sur ce type de chantier. Et donc, la mairie a eu l'immense gentillesse d'attendre de sélectionner le projet qui les séduisait le plus pour envisager la suite des travaux avec cette même agence. Donc, on est en train de développer les esquisses avec eux et d'aller chercher évidemment les financements pour que ces travaux voient le jour.
Est-ce que tu peux nous évoquer un peu le calendrier prospectif? Comment est-ce que ça va évoluer? À quelle date vous aimeriez voir le centre ouvert au public?
On adorerait que ça puisse être ouvert en majorité. Je dis en majorité parce qu'il y a 5 plateaux, donc qu'il y en ait au moins 3 qui soient ouverts en 2027. Ce seraient les parties hautes, donc qui sont accessibles par la route, autour duquel il y a plusieurs places de parking, etc. Donc c'est la plus accessible au public et c'est par laquelle on aimerait que les gens puissent entrer. Et ensuite, il y a une partie basse qui est en face de la crêperie, accessible directement de la cité médiévale à pied aussi, et qui est la crypte et la salle voûtée, la salle Poujol, qui sert déjà d'ailleurs de lieu d'exposition chaque été. Ça, ce serait plutôt l'année suivante. Voilà, c'est un calendrier qui est un peu flou encore, mais en tout cas, en 2025, on a vraiment présenté le projet aux professionnels du secteur culturel, aux politiques locales, et on l'a aussi présenté aux citoyens. On a fait une agora citoyenne en septembre où 60 personnes sont venues. Et à la suite de ça, on a pu ouvrir notre association. Et donc, notre première assemblée générale aura lieu là, samedi prochain, le 31 janvier. En parallèle, on est aussi en formation avec un organisme qui s'appelle l'ADEFPAT pour ajuster vraiment ce calendrier, mais aussi le modèle économique, les statuts, etc., etc. Et on commence à avancer main dans la main aussi avec la DRAC, la région, le département, la communauté de communes. Voilà, c'est un calendrier de rencontres encore. Et puis, on va rentrer dans le concret donc en 2026, cette année, avec potentiellement une programmation estivale d'expositions, de résidences, d'ateliers, de visites et d'événements.
L'agora citoyenne que vous avez déjà tenue, et là l'Assemblée générale donc du 31 janvier, ça a vocation à réellement impliquer les habitants dans le projet, aussi récolter leurs idées. C'est quoi l'objectif?
Bien, quand l'AMI est sortie, on a eu accès à des statistiques locales. On a trouvé ça vachement bien que la mairie convoque vraiment les habitants de Saint-Émy pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient voir à Saint-Émy dans cet édifice, et la réponse culturelle a été quasi unanime. C'est aussi pour ça qu'on a proposé un centre d'art et un centre d'art citoyen, parce qu'on a vu que ces gens-là étaient déjà sondés et avaient envie potentiellement de s'impliquer. On sait aussi qu'on est sur un territoire assez peu peuplé et qu'il y a énormément d'initiatives associatives sur le secteur culturel, mais aussi environnemental. Et nous, cette énergie, elle nous a vachement porté et on a eu envie d'avoir une réponse qui impliquait cette population, tout simplement. Parce qu'un lieu culturel ouvert à l'année aujourd'hui en Lozère, s'il n'est pas porté par les gens qui y vivent, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ce centre d'art, il s'appelle Citoyen, parce qu'on est en train de développer autour de cette initiative un comité citoyen qui porte avec nous des propositions artistiques, des propositions d'exposition, des rencontres, des événements. Donc, cette agora, elle était là aussi pour les mobiliser le plus tôt possible, même si on n'a pas la promesse que le projet voit le jour, parce qu'on attend encore des financements, etc., etc., qui puissent prendre part à l'émulation autour de l'ancien monastère et autour de notre proposition. Donc, l'Assemblée générale, là, qui a lieu le 31 janvier, on a pas mal de choses à faire. On a lancé l'invitation à beaucoup, beaucoup de monde et on attend de cette journée et de présenter encore le projet, évidemment, mais surtout de présenter les gens qui sont à nos côtés. On a un bureau qui est citoyen, porté par 3 personnes qui résident à Saint-Émy. On a convié des artistes pour qu'ils puissent présenter leurs pratiques. On aura même un atelier. On va même démarrer par ça, d'ailleurs, un atelier proposé par une artiste qui est à Bédouès, donc tout près de Florac. On aimerait bien élire un conseil d'administration, donc étoffer justement ce comité citoyen pour administrer ce centre d'art. Et pour clôturer, on fera un apéritif convivial.
Et tu l'as évoqué, ça sera donc un centre qui sera ouvert à l'année. Donc on imagine peut-être avec une programmation qui s'intensifie un peu en période estivale, mais ça sera quand même ouvert toute l'année pour les Lozériens, les Lozériennes.
Notre idéal, si tu veux, Raphaël, c'est que ce lieu, il vive à l'année, mais donc du coup que ce soit un lieu où les gens travaillent en fait. Pour nous, avant tout, un centre d'art, c'est pas un lieu figé où on expose des choses, les gens payent un billet et viennent voir des œuvres d'art. C'est un lieu où les artistes peuvent travailler. Et quand je dis artistes, je pense à toutes les disciplines, la littérature, la musique, le théâtre, la danse, le cirque, les arts visuels, évidemment, parce que nous, on vient de ce métier-là et on connaît déjà un réseau en Occitanie d'artistes, etc., qui exposent et qui ont à cœur d'exposer. Mais l'idée, c'est vraiment de leur donner un lieu d'expression, un lieu où ils peuvent travailler, où ils peuvent développer des idées et aussi voilà, donner vie à ce village qui a plein de ressources et plein de possibilités toute l'année et pas simplement en période saisonnière.
Eh bien, merci beaucoup Alice de nous avoir représenté le projet. Et donc on rappelle que voilà, l'Assemblée Générale aura lieu samedi 31 janvier à partir de 15h à la salle des fêtes de Saint-Enimie.
Merci beaucoup Raphaël.
Merci. On écoutait à l'instant le titre de Snowdon Song du groupe de folk psychédélique anglais Tony Cahoe and John, morceau sorti en 1972. Et comme tous les mercredis, Cineco s'invite sur Radio Bartas pour nous présenter un film à voir sur les écrans Cévenol. C'est la rubrique Parlons Ciné avec Cineco.
Parlons Ciné avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes. Sur Radio Bartas.
Et avant de laisser la parole à Jérôme qui va nous présenter un film qui sort cette semaine sur les écrans de Cinéco, c'est Vincent, le directeur de l'association, qui est avec nous pour commencer et il nous explique comment Cinéco élabore sa programmation, comment sont choisis les films qui vous sont proposés. On l'écoute.
Bonjour, oui, effectivement. Bon, je vais tenter d'expliquer parce que c'est une usine à gaz, c'est très compliqué. Donc, en fait, on a toujours voulu, Cinéco, depuis le début, ça fait bientôt 40 ans, on a toujours voulu impliquer tous les bénévoles de l'association dans la programmation. Donc, c'est une espèce de volonté qui est très, très complexe à mettre en place parce qu'il y en a à peu près 150, pas 130 des bénévoles en ce moment, ça dépend des années. Et donc, on a testé plein de méthodes de programmation différentes pendant une dizaine d'années au moins pour arriver à trouver des choses qui soient efficaces, qui soient pas prises de tête, où les gens ne s'engueulent pas, où on programme pas des films que personne ne veut voir et où on rate pas des films que tout le monde veut voir. Alors, on a des équipes de bénévoles dans chaque commune. Donc, on doit en avoir une vingtaine aujourd'hui. Donc, chaque commune qui fait partie du circuit a une équipe composée de 3 à 15 bénévoles. Et donc, c'est à ces équipes qu'on s'adresse au préalable pour défricher un peu la programmation. Ça se fait de quelle manière ? Ça se fait sur une invitation, forcément. C'est une réunion du conseil d'administration, puisque tous les bénévoles de Cinéco font partie du conseil d'administration. C'était aussi une volonté de pas mettre vraiment de caste, voilà, la caste des gens qui affichent, la caste des gens qui programment. Donc là, tous les bénévoles sont administrateurs. Et on envoie donc, avant la réunion du CA, une liste de suggestions de films qu'on a vus dans des festivals ou en amont de leur sortie et qu'on juge être parfait pour la programmation de Cinéco. On a la chance de participer à des festivals comme Cannes, comme Hoche, comme Avignon, et des visionnements à Paris professionnels réguliers. Et donc, on demande à chaque équipe de donner une liste. Mettons qu'il faut programmer 8 films, on va leur demander de nous donner une liste de 8 films qu'ils ont vraiment envie de passer, avec une obligation de faire un petit peu une espèce de panachage, c'est-à-dire pas que des drames ouzbeks et pas que des comédies UGC.
Et donc déjà, au sein de l'équipe bénévole, il y a déjà un premier travail de débat et de... Voilà, chacun, ils doivent tous ensemble se mettre d'accord pour aboutir à une liste commune.
Tout à fait. Alors, ils le font parfois, ou alors ils le délèguent à un bénévole. Mais en tout cas, effectivement, nous, on demande une liste par équipe. Donc, ça réduit un petit peu le... Ça les oblige à... Ça fait des espèces de différents étages pour mettre les gens d'accord. Bon, après, c'est simple, hein, cette liste, ils nous l'envoient et on la compile. Et on attend la réunion durant laquelle, en fait, on donne le tableau des films les plus demandés. Donc, s'il faut en choisir 8, on va donner les 8 films les plus demandés. Mais on va en programmer d'office que 2/3. Que 2/3 pour laisser, en fait, la place aux gens qui viennent au conseil d'administration, c'est donc en gros une vingtaine, une trentaine de personnes, de corriger en fait le premier jet démocratique, on va dire, et de choisir le dernier tiers en fonction de ce qui a été programmé pour équilibrer en fait la programmation.
C'est ça, donc pour pas tomber dans le cas où voilà, il y aurait trop de comédies ou trop de drames ou trop de documentaires.
Et les gens qui sont présents ce jour-là en fait votent et on programme le dernier tiers. Donc globalement, bien sûr, ça reste subjectif, mais on trouve que ça marche relativement bien. Néanmoins, on a rajouté un troisième étage, c'est parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, et donc qui ne sont pas contents de cette programmation démocratique et qui auraient voulu passer autre chose. Et là, on leur dit, OK, d'accord, et ben on vous ouvre du coup, sur la dernière partie du mois, la possibilité de placer des films en circuit libre. Et en fait, il suffit qu'il y ait 3 autres villages qui aient envie de passer ce film pour qu'il soit programmé d'une manière en one shot. Et donc, on peut programmer 3, 4, 5 films, en gros, en plus des 6 ou des 8 habituels. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des programmes qui ont 12, 13, 14, 15 films. Et là, globalement, souvent, tout le monde est content. je tiens vraiment à cette méthode de programmation parce qu'en fait, j'ai vu des méthodes de programmation où on votait pendant des heures pour chaque film, pour chaque équipe, où les votes étaient biaisés parce qu'en fait, ils votaient contre le film du voisin pour passer le leur. Enfin, c'était. Et où en fait, après des heures et des heures de vote, en fait, personne n'était content. C'est vraiment marrant en termes d'application de la démocratie.
Donc là, c'est plutôt une démocratie presque mouvante, enfin qui se laisse un peu bouger, un peu, c'est pas figé quoi. Ça peut évoluer non. Tout au long.
Non, c'est pas figé. Donc je sais pas si c'était clair. Il faut quand même remarquer que les cinémas itinérants en général en France, il y en a 80, ne programment rarement avec tous les bénévoles. C'est souvent une personne qui a la programmation ou un petit comité qui fait la programmation, mais c'est rarement tous les bénévoles de l'association qui peuvent donner leur avis parce que oui, ça... Bon, voilà, en fait, là, on a quand même un truc qui est simple et puis qui est très rapide. C'est ça qui est hallucinant. Et puis qui convient à la majorité.
Mais qui repose aussi sur le fait que voilà, vous avez des bénévoles qui sont très engagés, très impliqués, et c'est ça qui fait la force de Cineco.
Oui. Ouais, et là, je les remercie encore parce que sans eux, on ne serait pas là. Et sans eux, enfin, oui, voilà. J'ai deux chiffres à donner puisque là, en fait, on a passé deux caps. Les bénévoles sont allés trois fois sur la Lune depuis le début de Cineco avec leur voiture bénévolement. Donc, je crois que ça représente 500 000 kilomètres. Non, 1 million de kilomètres, pardon. 1 million de kilomètres. Et grâce à eux, effectivement, on a passé les 500 000 spectateurs depuis le début. Ce qui, sur une zone où il y a le moins d'habitants en France. Voilà, c'est pas trop mal.
Eh ben bravo. Merci beaucoup Vincent pour ces éclairages donc sur la fabrication de la programmation de Cineco. À bientôt.
À bientôt.
Et pour nous présenter le film de la semaine, c'est maintenant Jérôme de Cineco qui nous a rejoint et qui va nous parler du film Un poète. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Raphaël et bonjour à vos auditrices et auditeurs. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Un poète du cinéaste colombien Simón Mesa Soto. Donc, Simón Mesa Soto est un réalisateur qui commence à tracer un joli petit bout de chemin dans le cinéma latino-américain. Né à Medellín en 1986, il débute sa carrière avec des courts-métrages, comme beaucoup de réalisateurs. Et c'est avec Lady, en 2014, qu'il se fait connaître du grand public. Ce court remporte la Palme d'Or du court-métrage à Cannes. Et son premier long-métrage, Amparo, présenté à la Semaine de la Critique à Cannes en 2021, a lui aussi été salué par la critique internationale. Ce film lui a ouvert des portes et nourri des discussions sur les possibilités d'inventer un cinéma colombien qui regarde les réalités sociales sans complaisance. Malgré cela, c'est un réalisateur qui boucle ses fins de mois en enseignant. Il est professeur. Ça a l'air d'être assez dur en Colombie d'être cinéaste, d'en vivre et de financer des films d'auteur. Donc, Amparo, ce premier long métrage dont je vais vous parler quand même un petit peu, c'est un film qui n'a pas eu de sortie en salle en France jusqu'à présent, faute d'accord de distribution. Donc, ce premier long métrage de Simón Mesa Soto raconte une histoire très simple en apparence, mais profondément ancrée dans la réalité colombienne. Le film suit Amparo, une mère célibataire qui vit à Medellín avec ses deux enfants. Son fils aîné est tiré au sort pour le service militaire, dans un contexte où l'armée envoie souvent les jeunes issus des classes populaires vers les zones les plus dangereuses du conflit armé colombien. Pour Amparo, cette mère de famille, cette convocation équivaut à une condamnation à mort annoncée pour son fils. À partir de là, le film se concentre sur une course contre la montre. Amparo va tout tenter pour empêcher l'incorporation de son fils. Elle cherche de l'argent, des contacts, des arrangements possibles. Elle se heurte aux administrations, à l'indifférence, parfois à la corruption. Chaque porte qu'elle ouvre semble se refermer presque aussitôt. Ce qui frappe dans ce premier film, Amparo, c'est que Mesa Soto refuse le mélodrame. Il ne filme ni les combats, ni la guerre directement. Tout passe par le point de vue de cette femme, par son corps fatigué, ses silences, ses choix impossibles. La violence est hors champ, mais elle est omniprésente, comme une pression constante. Le film parle ainsi de la guerre vue depuis l'arrière, depuis ceux qui la subissent sans jamais la choisir, de la lutte quotidienne des mères dans un système social extrêmement inégalitaire, et plus largement de la façon dont un pays use ses populations les plus vulnérables. Déjà, dans Amparo, on retrouve tout ce qui va faire la force de Un poète. Un cinéma très incarné, attentif aux gestes, aux visages, à la dignité des personnages ordinaires et une mise en scène qui préfère l'observation patiente aux effets spectaculaires. Dans Un poète, Messa Soto propose un ton nouveau, quelque part entre le drame et la comédie, une tragicomédie, comme l'appellent certains critiques. Le film est aussi une réflexion sur la création artistique, mais pas que. C'est un film à tiroir, avec de nombreuses histoires à l'intérieur de l'histoire principale. Le rôle principal, celui d'Oscar Restrepo, le poète, est interprété par Ubemar Rios. Ce n'est pas du tout un acteur professionnel. Professeur de philosophie dans un lycée à Medellín, il n'avait jamais tourné devant une caméra avant ce film. Simone Messa Soto raconte que c'est un ami qui lui a envoyé une photo de son oncle, je crois, d'après les recherches que j'ai faites sur la création du film, en lui disant « ben c'est ton poète ». Et au départ, le réalisateur a vraiment hésité. Mais après une simple audition chez lui, il a été convaincu. Sa façon d'être, de parler, de bouger, sa sincérité l'ont séduit et ont même transformé le personnage. Messa Soto confie qu'Ubemar a tellement investi le rôle qu'il a fait sien le personnage d'Oscar, le rendant plus attachant et plus réel qu'il ne l'était sur le papier. Donc, le film raconte l'histoire d'Oscar Restrepo, un poète vieillissant dont la vie est faite de déceptions, d'alcool et de solitude. Autrefois publié et reconnu, il est aujourd'hui à Medellín sans véritable projet ni reconnaissance. C'est un homme à l'avenir perdu, un homme qui a sombré dans l'alcool. Mais cette trajectoire néfaste va petit à petit s'interrompre lorsqu'il rencontre Yurdali, une adolescente issue d'un milieu plus que modeste, dotée d'un talent brut pour l'écriture. Il décide de la prendre sous son aile pour l'aider à développer son art, espérant peut-être, à travers elle, retisser le sens de sa propre vie et réconcilier ses échecs. Et à travers cette rencontre, Oscar, comment dire, va peu à peu revenir à la vie, reconstruire des liens avec sa propre fille. Et bon, là, je ne vais pas tout vous raconter. Loin d'être une simple histoire de mentorat salvateur, Un poète ouvre la porte à une réflexion fine sur les motivations personnelles, la transmission et les illusions qui accompagnent souvent la création artistique. Le film aborde comme ça de nombreuses thématiques. Le monde de l'art, l'école, l'adolescence, les relations père-fille, l'alcoolisme et ses effets sur l'entourage. Pour faire court, c'est aussi l'histoire d'un homme qui s'oublie lui-même pendant de nombreuses années et qui va revenir à lui. Ce qui surprend aussi particulièrement dans Un poète, c'est le traitement formel du film, son montage et sa manière de filmer. Messa Soto a choisi de tourner principalement en 16 mm, un format argentique qui donne au film une texture granuleuse, presque tactile, loin de la netteté très clinique du numérique. Cette présence de la pellicule avec ses grains, ses imperfections, participe autant à l'atmosphère que les personnages eux-mêmes. C'est assez réussi et cela instille une véritable sensation d'intimité. Par ailleurs, le montage joue un rôle essentiel dans la façon dont les tonalités du film oscillent sans jamais perdre de cohérence. Les transitions d'une séquence à l'autre ne sont pas toujours évidentes. Certaines scènes s'enchaînent de manière très très brutale, d'autres laissent au contraire respirer les moments, qu'ils soient douloureux ou légers, créant ainsi une empathie singulière envers les personnages. Bon, sachez que présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes 2025, Un poète a remporté le prix du jury, récompensant cette approche du réalisateur à la fois très très personnelle et universelle de la création artistique et de l'échec. Et pour finir cette chronique, je dirais qu'en mêlant satire sociale, humilité narrative et traitement visuel très marqué, Un poète se distingue comme l'un des films colombiens marquants de ces derniers mois.
Merci beaucoup Jérôme d'être venu nous présenter le film qui est donc à voir sur les écrans en Cévennes à partir d'aujourd'hui. Et pour toutes les horaires, dates et lieux de diffusion, je vous invite à consulter le site de Cineco, www.cineco.org, et je mettrai le lien tout à l'heure sur la page de Midi et des Poussières sur le site de Radio Bartas. Voilà, et pour rester encore un petit peu en Colombie, je vous propose d'écouter un très beau morceau du groupe Canalón de Timbiqui. Canalón de Timbiqui, ce sont sont cinq chanteuses qui se sont rencontrées au lycée de Timbiki il y a déjà des années de cela. Timbiki, c'est une petite ville de la côte pacifique de Colombie dans l'état de Cauca. Et parmi ces chanteuses, il y a Nidia Góngora, qui est chanteuse et compositrice colombienne aujourd'hui considérée comme l'une des principales artistes de la musique folklorique de la région du Pacifique Sud. Donc ce genre, c'est le curalao. Et voilà, elle est comme une gardienne de la tradition orale de cette région. Et avec Canalón de Timbiki, elle chante les chansons que chantaient les femmes en lavant les vêtements dans la rivière, par exemple, ou en cuisinant pour leurs époux pêcheurs, ou en louant leur saint patron, Santa Barbara de Timbiki. On écoute tout de suite leur morceau, Quítate de mi escalera, sur Radio Bartas.
Ay, ay, por Dios. Oh, yo ya me voy. Oh,
¡Gracias!
Ah là là, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est si beau. Je l'écoute tout le temps ce morceau en ce moment. Il faut que je fasse attention de ne pas faire une overdose. Voilà, on entendait bien le son du marimba. Magnifique. On se quitte là-dessus. Midi et des poussières, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure sur Radio Bartas. Et d'ici là, restez bien à l'écoute sur le 107. À demain.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.